Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 35e épisode du podcast Interstice. Vous avez peut-être déjà entendu parler du marché du carbone lancé en 2005 dans l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que les mathématiques peuvent jouer un rôle dans l'étude de ce marché. Pour en discuter, nous recevons Mireille Bossy, directrice de recherche dans l'équipe projet TOSCA à l'INRIA Sophia Antipolis Méditerranée. Mireille Bossy, bonjour.
Bonjour.
Que pouvez-vous nous dire sur ce marché du carbone ?
Donc le marché du carbone au sein de la communauté européenne a été conçu comme un mécanisme qui doit encadrer la réduction des émissions de CO2. Donc c'est un marché qui concerne un certain type d'installations. Donc il y a des installations de production d'électricité, des centrales à gaz ou à charbon, des usines de papier, des aciéries. Et ces installations doivent se mettre en conformité annuellement avec leurs émissions de carbone. Donc comment ça se passe? En début de période, elles reçoivent ou elles achètent par un mécanisme d'enchère des quotas, donc ce qu'on appelle des crédits carbone. Et à la fin de la période, donc qui dure un an, on regarde quelles sont leurs émissions. Si elles rendent autant de certificats que leurs émissions, elles sont en conformité. Sinon, elles payent une pénalité qui est actuellement de 100 euros par tonne de CO2 émis pendant la période.
Par tonne de dioxyde de carbone émise pendant la période. Donc, et quel est le rôle du marché dans tout ça ?
Le rôle du marché, c'est de permettre à ces installations, donc à ces producteurs, d'échanger leurs certificats sur un marché organisé et leur permettre donc d'avoir de la flexibilité dans cette contrainte de mise en conformité annuelle.
Pourquoi s'intéresser à la problématique du marché du carbone ?
Alors, c'est une demande de l'ADEME, en fait.
L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est bien ça?
Tout à fait. Donc, déjà, par le passé, je m'étais beaucoup intéressée au marché de l'électricité. Ensuite, j'ai pas mal travaillé sur les problèmes de contrôle stochastique, par exemple pour la gestion de barrages hydroélectriques. Et quand il y a eu cette demande de l'ADEME de s'intéresser à ces questions de design de marché, on a tout de suite trouvé intéressant.
Donc vous, au sein du projet TOSCA, qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à ce marché du carbone ?
Alors ce marché du carbone, en fait, il est organisé en phases et il a des règles qui vont évoluer et qui évoluent sous l'effet de la législation. Ce n'est pas un marché qui est destiné à être pérenne dans le temps. Donc nous, on s'intéresse en fait aux leviers dans ce marché et à son design, donc dans la façon dont on peut définir ces règles et agir dessus pour obtenir tel ou tel effet en termes de réduction, en termes de fonctionnement, en termes de prix sur les quotas.
Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour définir ces leviers ?
Donc dans le projet TOSCA, on s'intéresse à la modélisation stochastique et on a une approche quantitative. Donc là, pour le marché du carbone, on va s'intéresser dans un premier temps au point de vue du producteur et on va chercher ce qu'on appelle le prix d'indifférence d'un quota, d'un crédit carbone pour un producteur donné, pour une installation donnée en début de période.
C'est quoi exactement ce prix d'indifférence ?
Alors, c'est le prix d'achat ou de vente de ce quota qui rend cet industriel indifférent entre acheter le quota aujourd'hui ou payer la pénalité dans un an.
Oui, parce que les industriels doivent payer une pénalité à la fin d'une année s'ils ont émis trop de gaz à effet de serre.
Tout à fait. Donc, ils ont la possibilité d'acheter des quotas en début de période ou à tout moment. Et donc ce que l'on cherche à capter, c'est l'intérêt d'un industriel à l'acheter ou à le vendre, étant donné les paramètres du marché, étant donné son outil de production. À partir de là, avec cette information, on pourra jouer mécaniquement sur les données du marché, par exemple augmenter la taxe ou la baisser, et comprendre comment évolue ce prix d'indifférence et avoir un marqueur du fonctionnement de ce marché. En effet, de bord, ce que l'on récupère aussi par la modélisation, c'est les émissions associées à ce prix d'indifférence, à cette configuration donnée du marché. On peut aussi comprendre si ces émissions vont augmenter ou diminuer.
Alors comment on fait concrètement ? Quelles sont les méthodes ?
Les méthodes sont les méthodes qui sont issues des mathématiques financières. Donc ce que l'on va chercher à modéliser, c'est la dynamique de production de l'industriel. Donc on s'est beaucoup, pour le moment, concentré sur un type d'industrie qui est la production d'électricité, qui est un acteur majeur sur ce marché. Et donc, on va s'intéresser à modéliser la dynamique de production. Donc, pour ça, il faut s'intéresser à l'environnement de production, c'est-à-dire les aléas sur la demande, les aléas sur les prix d'achat, c'est-à-dire, par exemple, pour l'électricité, la demande quotidienne en électricité qui a des fluctuations. Et pour répondre à ces fluctuations qu'on appelle la demande de pointe, il y a un marché d'achat d'électricité où les prix fluctuent quotidiennement et même heure par heure. Donc, une fois qu'on a cet environnement et cette dynamique de production, on va modéliser le comportement du producteur qui va décider sa stratégie de production en fonction de cet environnement, donc produire à tel prix et pour telle demande. Et on va décider de cette stratégie en fonction d'un critère, donc typiquement, qui est de maximiser la richesse issue de la production, donc la vente du bien produit, sur une période. Donc, ce qui est une approche très classique en mathématiques financières et qui se traite avec ce qu'on appelle le contrôle stochastique.
Et qu'est-ce que c'est le contrôle stochastique ?
Donc, le contrôle stochastique, c'est justement l'outil mathématique qui va permettre de mettre en équation ces comportements que l'on veut optimaux, mais optimaux de manière dynamique.
Quel est l'apport des mathématiques dans ce domaine ?
C'est leur capacité, en fait, à mettre en équation ces problèmes-là d'une manière qu'on peut résoudre.
Alors, quel est l'enjeu qui se cache derrière ?
L'enjeu, c'est la question des mathématiques qui arrive, qui est la plus classique de toutes. Est-ce que mon problème est bien posé ? Est-ce qu'il a une solution ? Est-ce qu'elle est unique ? Et est-ce que je sais l'approcher par un ordinateur ? Donc, c'est non spécifique, du coup, mais c'est la question habituelle qui pose le problème de la méthodologie et de la méthodologie juste.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
En fait, la principale, c'est qu'on est limité par la taille du problème que l'on va savoir résoudre.
C'est-à-dire ?
Eh bien, à chaque fois qu'on introduit une variable dans notre problème, on augmente la dimension des équations que l'on a à résoudre, donc à mettre dans un ordinateur pour les résoudre numériquement et traiter le prix d'indifférence. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, une fois qu'on a posé ce problème de limitation, il faut choisir les bonnes variables à rentrer dans notre modélisation.
Mais comment on choisit ces variables ? Comment on sait quelles sont les bonnes variables ?
Pour choisir et bien choisir ces variables donc, que l'on doit introduire en nombre limité dans notre modélisation, eh bien là, il faut discuter avec des gens qui sont spécialistes de ces marchés du carbone et également avec des gens qui sont spécialistes de ces moyens de production pour bien comprendre en fait où sont, encore une fois, les leviers qui vont bien expliquer la dynamique de production.
Y a-t-il d'autres difficultés ?
Alors ensuite, les difficultés sont d'ordre numérique, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons algorithmes pour résoudre les équations du contrôle stochastique et une fois qu'on a donc ce prix d'indifférence, il faut encore calculer ce qu'on appelle des sensibilités, c'est-à-dire des dérivées de ce prix d'indifférence par rapport aux différents paramètres que l'on a introduits dans le design du marché carbone.
Et en termes de perspective, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous espérez ?
Alors, les perspectives, c'est donc d'amener ces outils quantitatifs qui sont déjà bien au point en mathématiques financières sur des marchés plus standards, donc au service de réflexion sur le design de ces marchés de carbone. Évidemment, il y a l'amélioration des modèles, l'augmentation de dimensions et toutes les questions de maths que soulèvent de tels outils. Alors, on fait des outils et les maths, souvent, eh bien, elles sont plus longues à venir appuyer et renforcer ces méthodes. Mais une meilleure compréhension mathématique apporte toujours de meilleurs outils numériques et de simulation.
Pour finir, là, on parle du marché du carbone, mais finalement, ces outils pourraient être à terme étendus à d'autres problématiques.
Oui, absolument. De toute façon, déjà, nous, on importe, entre guillemets, la notion de prix d'indifférence et ce qu'elle contient la finance, j'allais dire, traditionnelle vers cette problématique du carbone où, au lieu d'optimiser un portefeuille financier, on est en train de regarder l'optimisation d'un outil de production.
Mireille Bossy, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.